Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique. C'est le 22e épisode, l'épisode numéro 21. Nous sommes le 4 novembre 2020 et aujourd'hui, je suis accompagné de gens merveilleux tels que l'incroyable Geoffroy Copry.
Bien le bonjour.
Bonjour Geoffroy, qui es-tu, que fais-tu ?
Eh bien, chez Clever, je travaille sur l'hyperviseur fait maison qui exécute du WebAssembly pour faire un function as a service. Et on le teste actuellement, c'est ultra cool, et c'est rapide, et c'est joli.
Je suis également accompagné du brillantissime Marc-Antoine Perrenou. Bonjour Marc-Antoine Perrenou.
Bonjour.
Marc-Antoine Perrenou, qui es-tu, que glandes-tu ?
Alors moi, chez Clever, je mets à jour les systèmes, je mets à jour les kernels, je boot des VM, je les déplace ailleurs. Je fais un peu tout ce qui est côté back, là où les utilisateurs n'ont pas trop envie d'aller mettre les doigts, sinon ça va tout casser.
Et pour terminer, j'ai le minificiant Julien Durillon. Julien Durillon, bonjour.
Bonjour.
Julien Durillon, qui es-tu ? Que bouines-tu ?
Eh bien, chez Clever Cloud, je bouine du code et des VM, et en ce moment, je fais beaucoup d'acteurs avec AGA.
Comme dans 10%?
Exactement.
Je suis vraiment déçu qu'il n'y ait plus le soundboard, parce que ça m'aurait bien été. Bon, du coup, vous l'avez tous deviné avec cette équipe-là, c'est qu'il se passe quelque chose. Et oui, le 11 octobre, le kernel 5.9 a été release par l'équipe Linux. Et donc, c'est un épisode spécial news du kernel. Donc, ça arrive très vite. Et juste avant, on va faire quelques news. Très rapidement, pour commencer, un changement de tarification sur Travis. Geoffroy, tu veux nous en parler deux minutes ?
Oui, donc Travis s'est décidé à un moment, s'est dit que ce serait bien de faire du cash, et donc ils ont changé leur prix. Donc on voit arriver des choses intéressantes comme le build macOS, c'est $15 pour 500 minutes.
Ça sent le deal avec le légal d'Apple un peu compliqué, tu vois.
Ouais, c'est bah, les armoires de Mac Mini, il y a un moment, ça coûte cher quand même, ces cochonneries. Et ce qui est aussi intéressant à voir, c'est que Travis, qui était le grand ami de l'open source, et vous pouvez faire vos builds de projets open source dessus, il n'y a pas de problème, bah, maintenant on est limité à 1000 minutes par mois. Et alors ça, quand on considère que c'était déjà extrêmement lent depuis quelques temps, bah, les 1000 minutes en 2-3 commits, je pense qu'on peut avoir fait le tour, quoi.
Ouais, mais ça c'est normal, c'est la fin de on rase gratis, tu vois. En fait, les investisseurs monnaie, et on verra plus tard pour le modèle économique, ouais, ça finit par poser des soucis.
Bah, ils le font encore sur GitHub Actions, par exemple, mais je ne sais pas combien de temps ça va tenir, ce truc.
Ah, mais c'est pas l'argent des investisseurs, les GitHub Actions, c'est l'argent de Microsoft. Ils sont riches chez Microsoft. Non, mais en fait, moi, je trouve que c'est intéressant parce qu'en fait, l'un des points des fondations, donc Apache, Eclipse et compagnie, c'était aussi de fournir l'infrastructure au projet. Et puis là, bah, beaucoup de projets, globalement, t'as GitHub, t'as Travis, Wagada, c'est parti, quoi. Et en fait, t'as plus besoin des fondations. Et je pense que là, ça remet un peu sur le devant de la scène une des utilités qui était de fournir l'infrastructure au projet. Et je pense que ça va avoir surtout un gros impact dans les mois à venir sur la qualité de code de projets open source, le temps que les gens se retournent, trouvent des solutions, parce qu'en fait, il y a des projets, tout simplement, les tests vont tourner beaucoup moins souvent, il y a des trucs qui vont péter, quoi.
Clairement.
Un truc à dire, les gars, non, je sais pas. Les gens font monde la tête, parce que un podcast, c'est audio, donc du coup, je fais tout en visuel. Et en plus, c'est le mec qui a la connexion Internet la plus pourrie et dont l'image est complètement pixelisée qui te fait ça. Autre news, une histoire de NAT Split Streaming. Est-ce que tu peux nous expliquer cette histoire de NAT Split Streaming, Gérald ?
Yep, parce que c'est quand même une faille qui est très très jolie. Donc déjà, le NAT, c'est ce qui permet d'avoir plusieurs machines derrière une même IP. Par exemple, votre routeur Wi-Fi, votre routeur Internet qui apparaît comme une adresse IP publique sur le reste du réseau. Mais en fait, derrière, vous avez votre téléphone, votre laptop, la machine à laver, etc., qui ont chacun leur IP. Et donc, le routeur fait du network
Eux, ils ont une jolie IP en 192.168.xx, machin, parce que c'est ça qu'on veut, quoi. Donc,
c'est
en fait,
ça.
Tout le monde utilise le NAT, on est bien d'accord.
Bah oui, en fait, c'est NAT, Network Address Translation, donc c'est le routeur qui reçoit un paquet et qui dit OK, c'est sur tel port, en fait, ça correspond à telle machine, à tel endroit, etc. C'est notamment utilisé par les opérateurs réseau qui veulent économiser leurs IP publiques. C'est pas bien, on n'est pas censé le faire, mais bon, ça se fait. Voilà. Et donc, quelqu'un s'est intéressé à ces algorithmes-là depuis longtemps, qui sont mais vieux comme le monde, et s'est dit, mais tiens, il n'y aurait pas des trous à faire. Et notamment, il y a un truc autour de WebRTC et des paquets SIP. Les connexions WebRTC et tout ce qui est audio-vidéo du browser, ça nécessite des communications compliquées pour établir les connexions entre deux machines qui sont derrière des NAT. Et donc, certains algos sont capables de reconnaître un paquet SIP, donc c'est un bout de texte qui dit « je suis à tel endroit, j'ai telle adresse IP localement, etc. » Et donc, le principe de la faille, en fait, c'est de s'arranger quand une machine fait une requête pour que elle envoie un paquet de données qui contient sa requête HTTP normale dans le premier paquet TCP, mais vraiment, et vraiment s'arranger pile poil pour que le paquet suivant contienne un truc qui ressemble à une annonce SIP. Et là, le routeur qui est con comme un balai, bah, il regarde paquet par paquet, il dit, ah, mais celui-là, c'est un paquet SIP, je connais, et donc je vais faire ma tambouille WebRTC et tout ça. Je vais ouvrir une connexion sur une IP qu'on m'a dit et c'est parti. Alors ça, il y a plein de prérequis dans cette faille. Il y a par exemple
Donc là, l'objectif, c'est de récupérer un flux, c'est de lire un flux ou de pouvoir accéder à une mécane qui est derrière le NAT, c'est ça ? C'est quoi ? C'est tu voles un flux, tu accèdes à la mécane derrière le NAT, c'est quoi la conséquence ?
Ça permet d'accéder à n'importe quel port TCP ou UDP sur la machine victime qui est derrière le NAT, depuis la machine de l'attaquant.
Par exemple, ton serveur web de dev, ton MySQL de dev, ton Spotify agent.
Ton Elasticsearch qui écoute sur le réseau local.
Voilà.
Dans les dernières versions, ils ont arrêté de faire ça.
Enfin, toutes ces choses-là, quoi.
La machine à café.
Et alors, il y a plein de prérequis intéressants dans cette faille qui sont, par exemple, d'aller faire des bouts de chargement par balise IMG et de regarder le temps de réponse de ces trucs-là pour savoir à peu près quelle est l'IP de la machine. C'est-à-dire, celle qui répond le plus rapidement, c'est celle qui a l'IP locale de la machine. Il y a s'arranger pour envoyer des paquets à droite à gauche calculer la taille maximum de paquets TCP sur ce routeur-là. C'est un enchaînement de trucs qui sont finalement assez connus, mais ça se fait de manière tellement, tellement belle. Enfin, je trouve ça vraiment génial, quoi.
Moi, je trouve que c'est une fois de plus, quand vous faites reposer votre sécurité par le réseau en bonne culture on fait la couche physique et roulez jeunesse, vous prenez un énorme risque. Il y a un article de blog qui a été écrit il y a maintenant 5 ans par Geoffroy qui s'appelle « La fin de la métaphore de la forteresse ». Je vous remets le lien, il faut aller le lire. Arrêtez de croire que la sécurité réseau veut dire quoi que ce soit, en fait. Genre, c'est même pire que tout, tu as l'impression dans ton sécurité, tu vois. Je trouve ça terrifiant, moi. C'est comme aller manger avec grand-maman, mais en plein air. Parce que tu comprends, en plein air, le Covid, il ne survivra pas. Tu as cette fausse sensation de sécurité qui va s'instaurer. Et voilà. La façon de faire de la sécu à l'ancienne, bah, si tu n'es pas branché dans le réseau, on n'a qu'à sécuriser les prises des Ethernet, tu vois. Arrêtez, quoi. Genre, arrêtez. Juste, en fait, on est en 2020 et les années 70 sont... Il y a très longtemps, la musique est derrière nous, la techno est derrière nous... La politique est derrière nous. Ah non, merde, Donald Trump. Mais enfin, bref, c'est une vraie catastrophe, quoi.
Là, c'est justement le retour à années 70. C'est-à-dire que bah, tu visites un site qui implémente ce truc-là, bah, tout d'un coup, c'est comme si tu étais accessible complètement à tout Internet. Voilà.
C'est aussi le futur. Hein. Tout le monde en IPv6 public. Hein. Allez, c'est ça qu'on veut.
Migration, bon, on passe sur les news. Dans 10 ans, c'est ça ?
On ne parle pas d'IPv6 dans un podcast, uniquement sur carte perforée. On se base sur les news du kernel. Donc, version 5.9. Version 5.9, c'est quoi sa petite histoire? Il y a eu beaucoup de RC, je ne sais plus trop. C'est pas marqué. Bon, c'est pas grave. Donc, version 5.9, sortie il y a un petit mois. Globalement, les grosses features, on a d'abord un truc sur la gestion de la mémoire anonyme. Qui nous explique ce qu'est la mémoire anonyme?
Je vais m'en occuper pour commencer. Donc oui, la mémoire anonyme, c'est la RAM, la partie de la mémoire vive qui n'est pas liée à un fichier. C'est quand on fait un malloc, en fait, pour parler aux gens qui font du C. Dès qu'on alloue un bout de mémoire pour mettre une variable dedans, stocker un objet, un truc comme ça, qui ne correspond pas à un fichier qui est sur le disque ou à une socket réseau ou un truc comme ça, cette partie-là, c'est ce qu'on appelle la mémoire anonyme. Donc, quand on quitte le programme, c'est celle qu'on efface parce qu'on s'en fiche, on n'en a plus besoin. Voilà. Et la mémoire anonyme,
donc là,
elle est gérée.
La nouveauté sur la gestion de la mémoire anonyme, c'est géré comment en fait pour l'instant?
En fait, pour l'instant, la mémoire anonyme, elle est stockée dans des. En fait, toute la mémoire est gérée par page de 4 kilooctets, si je ne dis pas de bêtises. Minimum, enfin, ça dépend des.
C'est configurable.
C'est ça. C'est configurable et ça dépend des archis. C'est peut-être configurable sur certaines archis et pas d'autres, j'imagine. Enfin, voilà. Et donc, dans les pages, il y a les pages actives, celles qui sont accessibles les plus rapidement et les plus souvent. Les pages inactives, ça reste dans la RAM, mais c'est un peu moins accédé et donc il y a peut-être moins d'opti dessus.
Et les pages inactives, c'est mon rapport avec Guerre et Paix de Tolstoï.
Exactement.
Les pages de la fin du bouquin sont restées inactives.
Moi, c'était l'argent de Zola en seconde.
Les pages inactives, par un exemple, c'est quand on fait des accès au système de fichiers, ça va être mis temporairement en cache si on réaccède aux mêmes données, pas avoir à relire le file system, mais ça ne va pas être de la mémoire vitale pour le logiciel. Du coup, les pages de cache du cache système, par exemple, ça va être dans la mémoire inactive.
Oui, ça veut dire que tu peux la réallouer si tu en as besoin, en fait. Très concrètement, c'est ça. C'est-à-dire que par défaut, tu ne l'as pas dégagé, parce qu'il y a quand même des chances pour que tu t'en reserves. Mais si là, tout de suite, tu en as besoin, eh ben, du coup, on ira taper dedans.
C'est ça. Le troisième endroit pour stocker les pages mémoire, c'est dans la swap. Donc, traditionnellement, c'était sur le disque. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la SRAM, dont on reparlera un peu après, qui est un bout de mémoire compressé, si je ne dis pas de bêtises, qui peut servir de swap, mais dans la RAM. Mais bon, en gros, il faut considérer que les pages actives, c'est le plus rapide à accéder. Les inactives, c'est pas moins rapide, mais c'est un peu moins rapide quand même. Et la swap, c'est ce qui est potentiellement le plus lent. Ça dépend sur quoi elle est stockée physiquement. Dans la dernière version...
Des disquettes 5 pouces 1,5.
Ouais, par exemple. Ouais. Dans la dernière version du kernel, il y a un petit changement, mais qui a des implications en termes de perf qui peuvent changer pas mal de choses. En gros, avant, quand on sortait de la swap de la mémoire, on les mettait directement en active, ce qui parfois forçait le système à passer certaines pages actives en inactive, alors que potentiellement, on pouvait y en avoir besoin. Là, ils ont juste décidé de prendre les pages dans la swap et de les mettre de base dans la liste des pages inactives. Et ensuite, la page va passer en active quand elle a été suffisamment référencée. Alors, suffisamment, il faut le définir exactement, mais derrière, c'est les algos LRU, si je ne dis pas de bêtises, qui font le tri donc entre ce qui est actif et ce qui doit passer en inactif, etc., qui vont mieux fonctionner et être plus performants parce qu'on ne lui a pas forcé sa décision en prenant quelque chose de la swap et en le mettant en actif.
C'est ça. Et du coup, ça ne concerne pas que les pages mémoire qui sortent de la swap, c'est aussi à chaque nouvelle allocation, au lieu de considérer que la mémoire est tout de suite active, bah, pour l'instant, on va juste allouer une page de mémoire qui va rester en inactive, et quand on va vraiment commencer à utiliser, là, ça va passer en active. Et pour décrire qu'est-ce que c'est LRU concrètement, c'est List Recently Used, ce qui veut dire que c'est les pages actives qui ont été utilisées il y a le plus longtemps, donc celles qui n'ont pas été utilisées récemment, qui vont passer en inactive.
Effectivement, voilà. Merci pour le...
Donc, globalement, c'est un truc assez mystérieux pour vous, mais qui devrait, sur beaucoup de cas d'utilisation, tu vas swapper de la data, et notamment, par exemple, une base de données, donner des gains de perf relativement intéressants à l'applicatif. Non, on peut le dire comme ça,
ou c'est,
ça
c'est surtout un truc, si tu as un soft qui tourne et qui utilise beaucoup sa mémoire sur le moment, ça évite qu'il se fasse chanter ses pages quand un autre soft à côté fait une allocation, en fait. C'est-à-dire, si quelqu'un avant faisait une allocation et ça arrive tout d'un coup dans les pages actives et qu'un soft qui se servait de sa RAM, là-bas, ses pages actives passent en inactive directement, bon, en fait, ça fait un peu le bazar. Et donc là, on considère que tu as fait ton alloc, ok, bah, elle est là, mais tu vas prouver que tu en as vraiment besoin là tout de suite, pour que ce soit dans les actives.
Et le scénario, en fait, où on verra le plus la différence, c'est justement le moment où le système il est sous une charge assez élevée, mais il n'est pas encore au stade où il va utiliser la swap, c'est juste avant, dans les stages juste avant, ça permet d'éviter d'arriver au stade où on va avoir besoin de swapper tout ça, ça vis-à-vis des pages actives.
Oui, parce que je rappelle à tout le monde que la swap, c'est en général pas une bonne idée. Enfin, de manière générale, tu vas ralentir ton système. Enfin, ça dépend encore une fois d'où est collée ta swap, quoi. Mais, ou alors tu ne vas pas la ralentir, mais tu vas diminuer fortement ta durée de vie de tes cellules SSD soudées, par exemple, sur la carte mère, pour ne pas faire référence à des laptops de marque fruitière. Autre sujet intéressant à propos de la mémoire, la gestion de la mémoire SLAB. Alors, avant qu'on parle de la nouveauté, peut-être, enfin, est-ce qu'on peut expliquer ce qu'est la mémoire SLAB pour commencer, et après, on parle des nouveautés dedans. Le SLAB allocator, en fait. Qui explique le SLAB allocator ?
Alors, le SLAB, concrètement, c'est pun intended.
C'est un pool.
C'est un pool. SLAB, ça veut plus ou moins littéralement dire parpaing. Du coup, on va prendre un gros bloc de mémoire et tous les trucs, par exemple, quand on va louer plusieurs fois une même structure ou autre, bah, tous les trucs qui se ressemblent comme ça, on va les regrouper dans un pool, tous les trucs qui vont plus ou moins avoir la même page, la même taille. Du coup, on va avoir une section dédiée aux objets qui font 4 kg, une section dédiée aux objets qui en font 10 et tout ça, pour essayer de regrouper les trucs qui se ressemblent, pour éviter la fragmentation, en fait, parce que sinon, avec les objets de tailles diverses et variées, on va se retrouver avec un bout d'objet à gauche, un bout d'objet à droite, et les paires vont être catastrophiques. Et actuellement, la gestion des différents pools d'objets est fait par ces groupes, du coup par logiciel pour simplifier. Et là, la nouveauté, c'est qu'on peut partager un même pool entre plusieurs ces groupes, ce qui va pouvoir permettre d'optimiser en fait l'utilisation de la mémoire au niveau de ces pools-là.
Par contre, qu'on soit clair, ça ne partage pas la mémoire. Ça ne partage que le système d'allocation.
C'est ça. Enfin, c'est-à-dire que ça va partager les zones de mémoire quand même un minimum. Parce que ça va être le même pool. Mais les process ne verront pas les différentes parties du pool de la même manière.
Oui, ça reste juste pour des structures kernel qui servent à gérer ces groupes, c'est ça ? Ou il y a autre chose ?
Non, là, c'est carrément l'allocateur mémoire. Quand tu le fais fonctionner en mode SLAB, tu vas pouvoir partager des pools entre plusieurs ces groupes. C'est chez Facebook, notamment, pour des outils internes où il n'y a pas de problème s'ils partagent de la mémoire parce que c'est des outils internes. Ils sont passés de plusieurs gigas à moins d'un giga d'utiliser sur une même utilisation parce que justement, ils ont pu partager un pool plutôt que d'avoir un pool par soft et qu'il y ait juste un item dans chaque pool.
Notamment pour des workers. Par exemple, chez nous, ça pourrait être un worker presto. Pour expliquer très concrètement ce que ça veut dire à des gens, c'est que votre mémoire, quand vous l'allouez, en fait, ce qui vous emmerde, c'est de ne pas avoir les mêmes bouts dans la mémoire parce que vous avez des problèmes de fragmentation. En fait, on en revient toujours à des problèmes de fragmentation. Vous vous souvenez de la défrag sous Windows 98 où vous réécriviez votre disque en fait en remettant tout sur le haut bien propre. En fait, c'est la même histoire. C'est plus simple de faire de la gestion de la mémoire si tous tes blocs ont la même taille. Parce que du coup, il y a un truc que tu vires, tu t'en fous, tu mets le même truc. Enfin, ça prend la même taille et tu viens au même endroit. Le SLAB allocator dans Linux, c'est ça. En fait, c'est un truc qui dit si tu es sûr d'avoir une homogénéité d'objets, bah, du coup, on leur prend une grosse page à eux. Puis à partir de ce moment-là, dans ce machin-là, bah, ils sont tous pareils, donc ce sera moins chiant. Et donc, du coup, l'allocateur est bien plus rapide. Tu n'as pas besoin de défragmenter la mémoire. C'est hyper simple, ça se passe hyper bien. Et ça, c'est une grande idée. Ça, ça sert beaucoup à des gens qui, par exemple, bah, encore une fois, ça peut servir à des DB qui font des traitements. Ça peut servir à des gens qui font des traitements de chaîne de blocs. Enfin, tous les trucs où tu es sûr d'avoir toujours les mêmes structures de données qui font la même taille, que tu vas les coller en mémoire, faire des traitements dessus, les dégager avec potentiellement des cycles de vie qui se ressemblent, bah, c'est hyper pratique. Et comme en fait, en underlying une DB, tu as souvent une autre DB qui elle-même a des blocs de mémoire très précis, bah, c'est ça. Quand vous utilisez un e-level DB, en fait, l'e-level DB derrière, ces blocs de mémoire de gestion sont très précis. Donc, du coup, il peut utiliser le SLAM. C'est à lui de dire qu'il utilise le SLAM. Là, l'intérêt, c'est de dire, même si on est dans des process qui ne sont pas censés se parler, on est capable de dire que c'est les mêmes process. Par exemple, vous êtes dans un système D, vous savez, avec une config virtuelle. Vous voyez cette config virtuelle. Donc, vous dites, je lance le même service qui est un SLAB, donc qui a une gestion SLAB de la mémoire. Et ben, en fait, vous pouvez mettre tout le monde dans le même allocateur de SLAB parce que vous n'avez pas partagé la mémoire. Par contre, vous allez partager la gestion de la mémoire par l'allocateur à cet endroit-là. Donc, par exemple, si vous lancez 4000 PostgreSQL en container systemd sur une bécane, ça va fonctionner. Ou pour des workers presto. Est-ce que j'ai bien résumé ou pas du tout pour des gens, pour que les gens comprennent le concret du truc?
Pour clarifier juste que ce que tu appelles conf virtuel, dans le jargon systemd, ils appellent ça des templates tout connement. Et c'est les units où on va avoir foobar@1.service par exemple, etc.
Et donc là, par exemple, vous savez qu'en fait, c'est le même service que vous lancez. Donc, si vous avez le même allocateur, on pourrait dire à l'allocateur de le faire. Alors, pourtant, c'est dans le kernel. Pour que vous vous en serviez, vous, en réel, sur votre Debian, bon, dans la Debian, ce sera disponible pour 2043, en même temps que la prochaine pandémie. Mais dans un système Linux traditionnel, il y a quand même un peu de boulot à faire pour être capable de l'utiliser. Encore une fois, c'est des API que le kernel fournit. Et ensuite, ce sera utilisé un peu plus haut. Est-ce qu'on a dit tout ce qu'il fallait faire dans le SLAB allocator ou pas du tout?
Ouais, bon, après, la transition est relativement smooth vers le point suivant parce que ça parle de fragmentation aussi.
C'est ça. On continue dans la gestion de la mémoire. Et donc, il y a une défragmentation de la mémoire qui est proactive. Donc, comme je vous l'expliquais, la fragmentation et la défragmentation de la mémoire, c'est le gros sujet perf de la gestion de la mémoire. Et donc, des nouveautés dans le 5.9. Qui nous explique ça?
Bon, je peux y aller tant que j'y suis pour continuer. L'idée, pour l'instant, avant la 5.9, quand on essayait d'allouer des huge pages, donc des pages mémoire qui sont plus grosses que des pages standards, donc quand on essaye d'allouer beaucoup de mémoire d'un coup, pour essayer de faire de la place, le kernel allait vérifier s'il n'y avait pas des zones de la mémoire qui étaient fragmentées. Puis s'il en trouvait, il procédait à des fragmentations pour qu'il y ait des places plus importantes de dispo à droite à gauche pour pouvoir caser sa grande page de façon contiguë dans un coin. Donc ça, fatalement, ça avait un certain nombre d'impact
en termes de performance. On peut le dire, sinon il y a des systèmes de virtualisation qui fait que ta grande page, tu as l'impression d'accéder à une seule page, mais en fait, c'est plein de petits morceaux de pages un peu partout. Par contre, à chaque fois que tu lis dedans, c'est l'ansaras. Non, mais enfin, qu'on explique bien aux gens comment ça peut se passer. Enfin, vous avez un phénomène d'indirection qui peut se produire au niveau des pages. Et donc, on va toujours chercher à maximiser la capacité à faire une huge page en la posant réellement contiguë, posée là toute seule, et pas en étant en fait un patchwork de petits morceaux qui traînaient dans la fragmentation de la RAM.
C'est ça. Et du coup, jusqu'ici, cette défragmentation a été faite qu'au moment où on allouait des huge pages. Et du coup, bah, les allocations d'huge pages prenaient d'autant plus de temps. Et derrière, les allocations qui étaient fragmentées pendant ce temps-là, bah, tant qu'elles n'étaient pas défragmentées, elles aussi, il y avait un overhead au niveau de l'accès à la mémoire. Et là, maintenant, dans la 5.9, il y a un setting qui n'est pas forcément activé par défaut, mais qu'on peut activer, qui fait que il va y avoir une défragmentation beaucoup plus agressive. Le setting, il va de 0 à 100. 0, c'est le comportement avant kernel 5.9. 100, c'est à chaque allocation, on va vérifier s'il y a des trucs à défragmenter. Et du coup, on peut être plus ou moins granulaire, plus ou moins agressif là-dessus. Par défaut, c'est 20. Donc, ça va être genre une allocation sur 5, il va essayer de défragmenter. Ce qui va permettre de pré-mâcher le travail et qu'il y ait moins de défragmentation à faire au moment d'allouer des use cases.
Peut-être on peut parler des perfs que ça. C'est, enfin, j'ai trouvé que le message de l'auteur du patch était intéressant.
Ouais, l'auteur du patch annonce que sur certains de ses tests, après on parle de quelqu'un qui fait des tests sur des systèmes NUMA. On en a parlé il y a 3 mois de NUMA, donc l'idée c'est de mettre, je le rappelle quand même au cas où, l'idée c'est de mettre des morceaux de la mémoire à différents endroits sur la carte mère, et donc il y a certains cœurs de CPU qui vont être plus proches de la mémoire, et on va essayer de raccrocher l'exécution sur certains cœurs pour être toujours du même côté de la mémoire. Enfin voilà. Donc on parle quand même d'un type qui fait des tests sur des systèmes qui ont 1 teraoctet de RAM et qui fait tourner des gros trucs Java où parfois il y a des choses un peu marrantes à faire dessus. Mais lui sur ses tests, il avait trouvé que la latence avait été divisée par 70 ou 80 lors de l'allocation des huge pages. Ce qui effectivement se voit beaucoup plus quand tu as 1 tera de RAM. Que quand tu as 4, 8 gigas dans ton laptop. Quoi. Donc, effectivement, sur des gros serveurs, ça va avoir beaucoup d'intérêt. Il faut voir encore si au quotidien, sur un laptop, ça a un impact aussi fort que ce qu'il annonce. Quoi.
Pour nous, ça peut être intéressant de jouer un peu avec lui sur la partie hyperviseur chez nous. Pour défragmenter la mémoire des hyperviseurs, je pense que ça peut être assez cool. Et du coup, on va gagner en perf sur les VM en elles-mêmes parce qu'on fera de l'indirection. Hein enfin, on va
perdre en fragmentation. Ça peut être quelque chose à tester.
Tout à fait. Et une dernière petite news, c'est un nouvel appel système. C'est le close range. Ça, c'est les file descriptors. Donc, très rapidement, quand vous avez un fichier sur un système Unix, il est nécessairement identifié et que vous l'ouvrez, vous l'identifiez par un file descriptor. Et comme tout est fiché en Unix, il y a des trucs, quand vous lui parlez, genre le réseau, machin, ça fait des file descriptors. Un socket, vous avez un file descriptor lié à ça. Et donc, par exemple, si vous avez beaucoup de connexions réseau ou si vous avez certaines DB qui aiment bien mettre tout dans des petits fichiers en foutant un bordel assez hallucinant, je pense très fort à toi, RIAC, petit service parti trop tôt en Erlang, qui aimait bien créer des chiers de DB de fichiers et les garder ouverts. En fait, quand tu vas changer tes modèles d'écriture et que tu dois fermer, pour l'instant, on allait fermer chaque fichier, chaque file descriptor, en fait, on allait le fermer à la main. Chacun un à un. Et en fait, le close range, ça permet de clore plein de file descriptors d'un coup. Et notamment pour arrêter des process en entier, tu clore le process et hop, à dégager tout d'un coup en un seul appel au kernel et pas en plusieurs. Et mine de rien, je pense avoir des impacts.
Ça ressemble un peu à. Enfin, dans ma tête, je trouve que ça ressemble un peu à IOURing. Qui était dans le kernel d'avant, si je ne dis pas de bêtises, où l'idée c'était on fait des gros batchs parce que en fait ça va plus vite. IOURing c'est plus pour du réseau, si je ne dis pas de bêtises, enfin des IO en général. T'es muté.
Tu pouvais close des trucs en batch effectivement avec IOURing, mais là effectivement tu peux faire ça tout d'un coup. C'est t'imagines quand tu as un soft qui doit accéder à plein de fichiers partout et qui a une durée de vie très courte, genre un compilateur ou votre VM Python. Qui va ouvrir tous les fichiers qui vont s'exécuter puis après pouf on arrête. C'est pas mal.
PHP aussi.
PHP
où vous savez avec l'autoloader, quand vous faites du Symfony, vous avez l'autoloader et en fait, vous faites une requête et là vous ouvrez des chiers de fichiers sans vous rendre compte parce que machin inclut machin qui inclut machin. Et en fait, comme toi, tu es l'exécuteur, va tout chier de fichiers d'un seul coup. Et bien là, en fait, tu vas ouvrir ce fichier, ça va être toujours de la même catastrophe. Mais au moins, au moment de déprovisionner et de clore. La totalité des trucs, ça va aller plus vite. Donc, au global, tu vas rendre le système plus réactif.
L'exemple qui est fourni avec est assez parlant, je trouve. C'est quand on l'appelle avec comme premier argument 3 pour lui dire à partir de 3 et comme deuxième argument 0 pour dire jusqu'à la fin. 0, 1 et 2, c'est les file descriptors de l'entrée standard et la sortie d'erreur. Donc, avec 3 et 0, ça va clore tout le reste. Donc, il n'y aura plus que les logs et puis les entrées qui seront ouvertes. Ce qui permet de faciliter pas mal les choses parce que tous les fichiers qu'on ouvre et tout ça, il faut en garder une trace dans un coin. Et dans des architectures complexes, genre par exemple l'interpréteur PHP, c'est pas trivial, quoi, quand même. Et ben, ça permet de pas se retrouver avec un file descriptor qu'on avait oublié de stocker à un endroit, ou alors on avait oublié de marquer qu'on l'avait déjà clos, du coup on essaye de le reclore et on va se taper une exception. Là, ça va juste passer sur ceux qui effectivement sont ouverts en ce moment, et ça peut éviter pas mal de problèmes rien que pour ça.
Ouais, ça te permet de faire clairement le ménage de façon régulière en me disant bah là, est-ce que j'ai fermé tout, enfin, c'est con, hein, mais je pense que ça va améliorer de la qualité de produit de façon pas si compliquée que ça. Et je pense que le truc est pas... J'ai pas regardé l'implème, mais je pense que le truc est pas trivial à coder, en fait. On a fait le tour sur tout ce qui était memory, file system, tout ça. Enfin, file descriptor, tout ça. Et ben, je vous propose qu'on passe à eBPF. Donc, BPF, comme on l'a expliqué la dernière fois, c'est l'espèce de machine de gestion, enfin, la machine virtuelle, la machine à état rapide du kernel de gestion du réseau dans Linux. Et les nouveautés BPF ce coup-ci, je suppose que c'est Géal qui nous les a mis.
Yep. Alors d'abord, il y en a une, c'est intéressant. Donc, un programme BPF, en fait, on peut l'attacher à différents endroits, par exemple, de la gestion d'un paquet. Et là, on peut exécuter un programme BPF au lookup de socket. C'est-à-dire qu'on vient de recevoir le paquet, on l'a traité, puis on se dit, bah, OK, quel socket, c'est-à-dire à quel programme en fait, j'envoie le paquet, à quel programme je notifie qu'il y a de la donnée. Et ben, c'est au lookup, on peut exécuter le programme BPF qui va dire, bah, en fait, là, je vais modifier un truc et je vais dire, tout ça, ça va vers tel ou tel socket. Ça permet, par exemple, d'avoir une socket UDP qui correspond à tout un range d'IP ou à une série de ports. Tout d'un coup, au lieu d'avoir bind sur chacun de ces ports ou chacune de ces IP, et ben, tu peux faire sur un paquet d'un coup avec ça, en modifiant le routage comme ça directement avec un BPF. Pardon ?
Voire dynamiquement.
C'est ça. C'est ça, parce qu'en plus, tu peux communiquer avec ton programme BPF avec des maps depuis le userland et lui dire ben, maintenant, en fait, ça va. Donc, il y a des choses très intéressantes à faire avec ça.
C'est une sorte de reverse proxy interne du kernel du traitement des paquets. Quoi.
C'est ça. Il y a... des petits ajouts de features à droite à gauche. Donc il y a le set socket. Donc on peut set des options sur une socket. C'est un truc assez connu depuis longtemps. Là on peut le faire en BPF. Donc par exemple mettre du type live et autres directement. Donc en fait programmer son réseau côté BPF, ça devient un environnement qui est de plus en plus pratique. Il y a pas mal de choses rigolotes à faire de ce côté-là.
Là, je pense, avec ce bidule-là, en fait, on devrait pouvoir imaginer supporter plusieurs protocoles sur le même port. Puisque tu regardes la tronche du paquet et t'affectes à un programme ou l'autre en fonction de la tronche du paquet et supporter plusieurs protocoles sur le même port.
Ça se fera carrément. Il faut juste que ton premier paquet TCP...
J'ai pas dit que c'était une bonne idée. Hein.
C'est ce que j'allais demander, oui.
Ouais, mais c'est drôle.
Doit-on s'arrêter à savoir si c'est une bonne ou une mauvaise idée, alors que la question, c'est est-ce qu'on peut le faire ?
On peut déjà le faire, hein. Sans BPF même, il y a déjà des tools pour partager le SSH et le HTTPS sur un même port pour bypass les pare-feux débiles de certaines entreprises.
Oui, mais là, tu peux faire une bêtise de manière beaucoup plus efficace.
Et il y avait de mon temps, quand j'étais jeune et que j'utilisais beaucoup IRC, il y avait une espèce de gateway Yves. IRC.
Yves Montan, pardon.
Ah.
Voilà. Dumts.
Non, mais il y avait une gateway IRC où l'interface d'administration et l'IRC répondaient sur le même port. L'interface d'administration étant en HTTP et l'IRC était donc en IRC. Et je me suis toujours dit, genre, je ne vais pas aller voir le code. Je pense que je ne vais pas cautionner du tout ce qui se passe. Tu vois. Un truc tout sensé, tu sais, avec une interface d'administration dégueu en HTML1.
Le truc à retenir, je pense, sur les évolutions de BPF dans le kernel, c'est que quasiment à chaque nouvelle version, on a un nouveau point d'accroche dans lequel on peut venir se plug pour enregistrer un programme qui se lance à différents endroits. Quoi.
Et qu'on peut faire du BPF en Rust.
Clairement, aussi. Il y a de l'outillage pour ça, c'est cool.
On a d'autres trucs sur BPF, ce qui s'est passé?
Ouais, il y a un dernier sur un petit point intéressant, en fait, c'est qu'on peut décider en fait sur quel core du CPU un programme BPF va s'exécuter. Faut savoir qu'il y a certaines cartes réseau qui supportent une fonctionnalité qui s'appelle le Receive Size Scaling. En gros, la carte réseau, selon un algo de routage, par exemple, je sais pas, si on regarde le numéro TCP, l'IP source, une grille comme ça, va décider quel core reçoit le paquet. Et après, tous les paquets correspondant à cette connexion vont être envoyés au même core. Comme ça évite d'avoir le process qui va traiter ce paquet, d'éviter qu'il saute d'un core à un autre. Tout ce qui correspond à une connexion va toujours aller sur le même CPU. Donc, c'est intéressant, par exemple, quand on a des serveurs web. Et ben pour les quand on a des cartes réseau qui ne supportent pas, en fait, on peut s'arranger par contre que le programme BPF qui va traiter tel ou tel paquet s'exécute toujours sur le même core. Et donc, on envoie la donnée au bon endroit à chaque fois. Je n'ai pas trop regardé exactement comment c'est implémenté, parce que ça a l'air assez tricky, mais c'est encore une petite feature sympa pour de la perf, quoi.
C'est vrai que le petit programme BPF, c'est comme le coronavirus, on n'a pas envie qu'il saute d'un corps à un autre. Voilà, je suis en France.
Non, mais ceci dit, c'est la même chose que ce dont on parlait il y a un instant sur la mémoire. C'est éviter de décharger, charger des trucs, éviter de fragmenter, essayer d'avoir des trucs stables qui restent au même endroit tout le temps et ça se passe bien. Et c'est vrai que sur des machines, notamment qui traitent beaucoup de réseaux, tu te démerdes pour avoir un core qui ne fait que ça. Et puis tu as un core qui fait toujours le tout venant, qui gère ta connexion SSH, le kernel, le bidule, enfin qui fait sa vie. Mais tu as des cores, tu essaies de les dédier, tu essaies de t'assurer que, en fait, rien d'autre sur le CPU, sur ce corps-là, ne vient foutre ses gros doigts, parce que comme ça, tu sais que le process, il est toujours là, il se pose zéro question, il a jamais download, il a jamais, il a le CPU pour lui, quoi. Ok. IO Earring, puisqu'on en parlait.
Il y a IO Earring, ça c'est une autre des fonctionnalités sympas niveau réseau dans le kernel. Donc c'est ce syscall où en fait on peut envoyer une liste d'opérations d'IO à faire, genre écris là, lis là, ouvre, accepte une socket sur ce listener, enfin un paquet de choses. Et on fait le call et on reçoit après une liste des événements qui, enfin une liste des actions qui ont été effectuées. On peut même enchaîner des actions, lui dire bah, tiens, tu fais telle action, et si elle a fini, tu fais celle-là après, et puis après, tu fais celle-là, et tu me renvoies les résultats après. Il y a des choses super intéressantes à faire. Et donc là, une amélioration de la performance, c'est pour la lecture dans un buffer, notamment si on lit dans un fichier, s'arranger pour que ça utilise la même async IO que tout le monde, au lieu d'avoir un worker dans un coin qui a son thread, qui va lire et qui après envoie une notif. Donc ça, c'était a priori une méthode un peu crade de le faire et maintenant c'est fait proprement. Et il y a le support de IPOL exclusive, ce qui permet d'être notifié d'événements sur une socket, mais qu'on ne réveille pas tous les autres threads, tous les autres process qui peuvent être en train d'attendre sur cette même socket. Donc, bah encore une fois, on améliore la perf, on rend les trucs plus utilisables. Ça avance bien. IOring, c'est vraiment un des trucs les plus excitants qu'il y a sur le kernel ces temps-ci. Plein de choses super intéressantes à faire avec.
Et comme je le dis assez souvent, n'oubliez pas que autant le calcul, la console RAM, ce n'est pas des sujets si importants que ça pour la perf. Par contre, les I/O, c'est le vrai sujet de la perf. Et la plupart des gens, leurs problèmes, enfin, les gens sont persuadés d'avoir des problèmes de CPU et sont prêts à faire n'importe quoi pour économiser du CPU, y compris faire n'importe quoi comme utiliser des FAT binaires bien dégueux, dont personne n'a rien compris à quoi ils servent, plutôt que juste prendre le temps de recompiler un soft pour l'architecture matérielle qu'ils visent. Alors qu'en fait, leur problème, enfin, il n'a jamais été CPU et le CPU glande, mais que leur problème, c'est les I/O et qu'il faudrait juste recoder la couche d'I/O. Ok. ZSTD, alors, un nouveau standard de compression pour compresser le kernel et l'initram, qui veut nous en parler?
Non, ce n'est pas un nouveau standard de compression, c'est un algo de compression que Facebook a sorti il y a quelques années déjà maintenant, ça doit faire 4 ou 5 ans, qui progressivement est incorporé à un peu tout ce qui supporte la compression. L'avantage de ZSTD, c'est qu'il a un très, très, très bon ratio rapidité par rapport au taux de compression. C'est-à-dire que ça va avoir une compression qui ne va pas être la même que XZ, par exemple. Il y a vraiment une compression de taré, mais qui va quand même être un peu mieux que les trucs basiques comme GZIP. Mais ça va être très, très, très rapide. C'est quasiment transparent niveau rapidité d'écriture et de lecture. Du coup, c'est un choix où quand on cherche plus la perf que la compression en elle-même, c'est le choix que tout le monde fait de facto en fait quasiment maintenant. La dernière fois, on avait parlé de Systemd qui avait ajouté le support de ZSTD justement pour la compression de ZornLD. Là, le kernel le supportait déjà dans certains morceaux, genre BetterFS, ça fait quelques années que ça supporte la compression transparente en ZSTD. Là, on peut compresser le kernel en lui-même, on peut compresser l'initRD et on peut compresser les RAM disques. Les RAM disques, c'est quand on prend un bout de la RAM et on dit ça fait comme si c'était un mini disque virtuel. C'est ce qui sert pour la ZRAM notamment. Et du coup, ça permet d'avoir, par exemple, en parlant de ZRAM, il y a un projet là. Dans Fedora 33 qui est sorti il y a une semaine ou deux, pareil, il s'est activé par défaut et on commence à le voir un peu partout. C'est un projet qui s'appelle ZRAM Generator, on va vous mettre le lien. En gros, ça va réserver un bout de votre RAM et ça va l'utiliser comme swap. Au lieu de stocker la swap sur le disque, ça va être dans un bout de la RAM, mais ça va être compressé. Du coup, par exemple, si vous mettez 20% de votre RAM en tant que swap, tant que vous êtes dans les 80 premiers pourcents, vous avez utilisé votre RAM normalement. Mais quand vous allez trop vous rapprocher des 80, il y a une partie qui va être compressée et stockée dans les 20% restants. Donc, ça va être de la swap avec un overhead très faible parce que ça sera stocké dans la RAM et ZSTD est très rapide si vous choisissez ZSTD comme algorithme. Par contre, du coup, ça limite la quantité disponible parce que c'est stocké au même endroit. Mais ça permet d'agrandir un peu virtuellement votre RAM avec des sensations très négligeables en termes de dégradation de performance. Voilà, donc c'est plutôt sympathique que ça arrive dans ces zones-là où ça manquait pour l'instant.
Peut-être, Julien, tu veux parler des... Ouais.
Il me semble qu'un des intérêts que tu n'as pas mentionné, c'est la décompression. Ou alors j'écoutais pas, mais ça m'arrive de pas écouter parfois pendant le podcast. C'est-à-dire que même si donc il y a plusieurs niveaux de compression, il me semble dans ZSTD comme dans pas mal des algos qui existent, et même si on choisit le plus fort, enfin l'algo qui privilégie le plus la compression plutôt que la rapidité en termes de compression, donc, qui va forcément être le plus lent, même voilà les trucs les plus compressés. Ne change pas le temps de décompression. C'est-à-dire que, je ne sais pas, je parle de ce que je connais le mieux, il me semble que c'est dans XZ que tu as un niveau de 1 à 9, un truc comme ça. En gros, si on choisit 1, c'est pas très compressé, et 9, c'est très compressé, mais forcément, ça prend plus de temps. Et en gros, dans ZSTD, quand on décompresse quelque chose qui est de niveau 9, ça prend autant de temps que de décompresser quelque chose qui est de niveau 1. Ou alors, en tout cas, il n'y a pas une évolution linéaire et apparemment même pas une évolution logarithmique entre les deux. Quoi. La différence est vraiment infime. Et notamment Facebook, donc, qui a développé le truc et qui pousse énormément son développement, ils ont annoncé qu'ils étaient passés de 12 secondes à 3 secondes pour décompresser leur initRAMFS, ce que je trouve énorme personnellement. Je ne sais pas ce qu'il y a dans leur initRAMFS, mais déjà pour que ça passe...
On est deux à penser que ça fait des gros initRAM.
Ouais, quand même, parce que 12 secondes... enfin voilà.
Ouais, ou alors il est décompressé sur des Raspberry 1, quoi.
Ouais, peut-être. Et voilà, et donc la décompression du kernel aussi fait gagner 2 secondes sur le temps de boot. Honnêtement, sur un temps de boot de laptop, encore une fois, ou une fois qu'on a affiché le bureau Windows, ben, en fait on est qu'au quart du boot. Voilà, enfin bon, je parle de ce que je connaissais il y a 10 ans, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas touché. Mais voilà. Alors que sur certains serveurs ou sur des VM, ça peut être bien de gagner, déjà divisé par 4. Enfin, là, tu as 12 secondes, à 3 secondes, ça fait 9, plus 2 secondes, voilà. Enfin, faire gagner 10 secondes de boot sur une VM quand il y a besoin de répondre à de la charge, par exemple, c'est toujours ça de prix, quoi.
D'accord.
Voilà, voilà.
Qui veut parler du console reader module ?
Je pense pas qu'il y ait grand chose à en dire. En tout cas, dans la news du kernel, il n'y a rien de. Comment dire ? C'est pas extrêmement détaillé. Mais dans l'idée, si j'ai bien compris, quand on est en TTY, donc vraiment quand on a un shell directement fourni en fait par le kernel, si je dis pas de bêtises. Enfin, bon, il y a du bash, etc., ou des trucs autour, mais c'est-à-dire que quand vous êtes dans votre interface graphique, vous n'avez pas un terminal, vous avez un émulateur de terminal. C'est-à-dire que c'est un soft qui va vous afficher des choses et qui va envoyer derrière les commandes. Mais quand vous êtes sans interface graphique, vous êtes vraiment sur ce qu'on appelle le TTY, je ne sais plus exactement ce que ça veut dire. Apparemment, dans le kernel 5.9, il y a maintenant une fonctionnalité de lecteur d'écran, donc pour les personnes malvoyantes, qui est sort, alors qui était encore en test et qui apparemment est sorti en prod dans le kernel 5.9.
Classe. Voilà.
Je peux pas trop en dire plus parce que n'étant pas malvoyant, je suis pas trop allé tester. Mais voilà, je trouve ça intéressant quand même de se dire que bah il y a ça qui a été intégré.
C'est ça la beauté d'open source, mon bon monsieur, c'est que tu peux aller faire des trucs spécifiques pour des gens, y compris si tu vois, si c'était commercial, personne n'irait se faire chier à aller l'implémenter. Et bien là, comme c'est open source, des gens peuvent aller le faire. Et ça, c'est beau.
Sachant que, en anecdote, dans cette partie-là du kernel, c'est config VT, notamment, qui est Virtual Terminal, qui s'occupe d'afficher tout ça, justement. Et c'est. Il y a récemment des gens qui se sont amusés à faire passer des gros fuzzers sur tout le kernel. Et c'est la partie où ils se font plaisir. Ils trouvent plein de bugs dans tous les sens. Et du coup, ils virent beaucoup de features, en fait, de features d'affichage spécifiques. Et c'est amusant de voir, du coup, que, par contre, il y a quand même des nouvelles features qui arrivent à arriver à côté de toutes celles qui se font sabrer, justement.
À propos de nouvelles features, on va parler Power Management.
Ouais. En gros, dans le kernel, il y a un truc qui s'appelle le Energy Model qui permet de faire des modèles de gestion de l'énergie, de l'électricité, quoi, pour savoir comment est-ce que tu alloues, sur quel, à quel endroit tu alloues, etc., l'électricité, plus ou moins. Donc ça peut être bien pour des batteries et puis parfois pour des systèmes qui veulent économiser l'énergie. En gros, le modèle avant.
Et c'est critique pour les laptops, parce qu'aujourd'hui, la durée de vie des laptops, elle n'est pas tant matérielle, en fait. Le gain sur la durée de vie de l'ensemble des laptops n'est pas tant matériel qu'une gestion intelligente de l'électricité que tu consommes des batteries du laptop. Et notamment, c'est pour ça qu'Apple a des assez bons chiffres. C'est pas juste qu'ils blindent le laptop de batterie, mais c'est vraiment aussi parce qu'ils connaissent exactement le hardware sur lequel va se déployer leur soft et du coup ils font de l'opti assez fine sur la gestion du power management.
Mais voilà, actuellement les modèles utilisés ne connaissaient que les CPU, en gros. Et là, ils ont ajouté le fait que le modèle d'énergie. Couvre un peu plus que juste les CPU, la RAM, différents subsystèmes, etc. Et l'idée, c'est de fournir une interface un peu unifiée, si j'ai bien compris, sur tout ce qui est le sous-système thermique, etc., qui récupère les infos de température et d'usage, etc. Donc, l'idée, c'est de pouvoir ensuite, bientôt après, s'intégrer vers des nouveaux devices qui arriveraient, qui veulent utiliser des features un peu plus avancé justement sur l'allocation plus intelligente de l'électricité, quoi.
Ouais, que ce soit l'écran ou que ce soit peut-être le réseau, le réseau en onde, il y a un vrai sujet sur le réseau en onde où des fois tu peux diminuer, je pense, assez sérieusement ta conso en te mettant dans un mode où tu fais coucou une fois de temps en temps pour regarder qui t'écoute, mais enfin qui a besoin de te parler, mais t'es pas obligé d'être plein de balles.
Ouais. Bon, là, comme news, ce n'est pas le truc le plus excitant du monde. Ça ouvre la porte à l'utilisation et la meilleure gestion de nouveaux hardware qui ne sont pas forcément encore complètement là, quoi. Et pas forcément dans les laptops de tout le monde non plus.
Ouais, après, ça ouvre la porte. À partir du moment où c'est dans le kernel, ça ouvre par exemple la porte à quand tu gères des gros serveurs de fichiers ou de DB de fichiers, tu sais, enfin, genre les chunks chez nous, tu vois, les bidules où tu as 400 disques durs, tu vois, bah, tu as peut-être moyen du coup de pouvoir aller arrêter des disques où tu sais que tu n'as pas trop besoin d'aller leur parler ou de les relancer en tournant, tu sais, tous les disques tournants. Dans la gestion d'énergie, là où pour l'instant tu ne peux pas vraiment le faire.
Potentiellement, oui.
Tu vois, je pense que dans le framework, tu vas pouvoir avoir lui dire voilà, tu peux aller arrêter les disques où tu n'as pas besoin, ou etc. Et ça, je pense que c'est cool et c'est bien de mettre en place ce framework-là. Et potentiellement, il y a de l'ELEC à sauver. Et donc, de l'ELEC à sauver en data center, c'est-à-dire du refroidissement à sauver. Enfin, c'est toujours utile dans le DC de sauver de l'ELEC, c'est toujours pratique. Et sur le portable, bah, c'est ce qui fait ton autonomie. Hein. Il n'y a pas de secret là-dessus. Donc, ça, je trouve que c'est cool d'avoir un modèle qui prend en compte tout le système et non pas juste la CPU. Peut-être ça prendra même en compte la carte graphique. Genre on pourrait peut-être un jour avoir des cartes graphiques qui n'auraient pas seulement « je suis éteinte » ou « je bouffe tout ce que je peux comme un gros sagouin ». C'est un peu ça les cartes graphiques quand même. Enfin, genre, t'as deux modes. T'as « je prends tout » ou « je prends rien ». Ça pourrait être cool. Du coup, on pourrait refaire des interfaces pilotées par la carte graphique sur des ordinateurs portables sans avoir une batterie qui tombe en 20 minutes, quoi. Bisous à Beryl, petit ange parti trop tôt. On parle d'NFS ?
Oh oui !
Personne n'est enthousiaste. Vous nous expliquez ce qui s'est passé sur NFS ? Puis alors en plus, ça c'est vraiment pas moi qui vais l'expliquer. Hein.
Alors en fait, dans la 5.9, dans la partie NFS, ils ont ajouté le support des XATTR, les attributs étendus. Qu'est-ce que c'est les attributs étendus ? C'est en fait la possibilité de rajouter des métadonnées directement sur un fichier. Donc, le fichier va avoir une partie sur le file system qui va être son contenu et une autre partie qui va être de la métadonnée qu'on va pouvoir rajouter. Il y a notamment des LSM, des Linux Security Modules comme SE Linux par exemple ou autres qui se servent des attributs étendus pour justement gérer certains droits d'accès. Par exemple, tu as le droit d'accéder qu'aux fichiers qui ont cet attribut ou ce genre de choses. Et le fait que ça arrive dans NFS, du coup, ça va probablement permettre d'avoir justement des attributs étendus qu'on va pouvoir partager sur le réseau pour pouvoir déployer des règles de sécurité potentiellement ou ce genre de choses à travers le réseau sur des parcs de machines. Voilà.
C'est génial, l'utilisation de LSM au travers de NFS, c'est génial en vrai.
Voilà. Petite anecdote sur les attributs étendus. Qui avait fait pas mal de bruit il y a quelques années. Il y a des gens qui se sont rendus compte que wget, quand tu télécharges un fichier, et ben dans les attributs étendus du fichier, si le file system le supporte, il ajoute l'URL de téléchargement avec entre autres dedans les credentials s'il y en a. Quoi. C'est... Voilà.
Ah.
Grande idée.
Voilà. Comme quoi, c'est vraiment des metadata pour tout.
Bah, metadata là-dedans. Tu vois, metadata. Boudoubs.
Je pense qu'on est sur une bonne lancée là dans cet épisode.
Lance ta data. Non, pardon, je faut s'arrêter. Et tant qu'on parle de file system et d'interagir avec le file system, il y a eu aussi des ajouts dans FA Notify. Peut-être qu'on peut expliquer vite fait ce qu'est FA Notify aux gens avant.
FA Notify, c'est File Access Notify. Donc, c'est une API du kernel qui est là pour pouvoir monitorer tous les accès fichiers, que ce soit accès, modification, suppression, etc., de manière récursive ou non.
C'est, par exemple, quand vous lancez une rebuild, quand vous avez sauvegardé un fichier, tu vois, tu lances ta rebuild auto, et ben ça, en général, c'est fait à coup d'effet notify sous Linux.
Justement, non. ça, en général, c'est fait à coup de e-notify.
Qui est l'ancienne façon de faire.
qui est l'ancienne façon de faire, et FA Notify, en fait, c'est la nouvelle façon de faire, qui est plus orientée, en fait, contrôle d'accès. E-Notify, c'est vraiment en mode hook, justement, pour réagir à des événements. Là où FA Notify, ça va permettre de s'insérer dans l'accès et de dire « Non, en fait, celui-là, je le refuse. » Et du coup, la personne qui a essayé d'ouvrir le fichier va se manger une permission denied. C'est ce qui est utilisé entre autres pour, enfin, ce qui peut être utilisé entre autres pour implémenter des antivirus, par exemple, qui vont monitorer tous les accès système et les accepter ou les refuser avant qu'ils aient été faits et pas réagir après coup. Voilà, donc c'est une API plutôt cool, assez simple à utiliser. Et dans la 5.9, ils ont rajouté des nouveaux flags qui permettent de gérer plus facilement des groupes d'événements pour pouvoir réagir justement en conséquence. Et petite shameless pub, il y a quelques années de ça, j'ai écrit un petit logiciel qui s'appelle FA Cron, qui est basé sur FA Notify justement et qui vous permet d'exécuter des actions en réponse à des événements file system, un peu à la manière d'un cron qu'il ferait sur le temps, mais là c'est avec le file system. Voilà.
Mon Dieu, je l'avais oublié celui-là. À une époque, ça a été utilisé dans Clever, ça.
Tout à fait.
C'est pas écrit en Rust depuis le temps celui-là.
Non, c'est un moment non,
parce
où
on en l'utilise fait, plus pour de bonnes raisons en fait.
Mais c'est un moment où j'étais en cours, je m'ennuyais, j'avais envie d'écrire un parseur full à la mano avec une table de transition. Voilà.
Quelques années, tu vois, genre. Parce que Marco n'a pas foutu les pieds en cours depuis un bon 10 ans. Donc, tu vois, quand tu dis quelques années, le code. Enfin, tu vois, Marco vieillit, en fait, hein, comme nous tous autour de la table.
Aucune preuve.
Mais je me rappelle de pourquoi on utilisait ça, parce qu'à une époque, on se servait d'un directory comme queue de traitement sur les bécanes, et c'était assez discutable.
Oh, les gorées.
Non, mais attends, quand je te dis à une époque, genre, on a arrêté de faire ça il y a peut-être 8 ans, tu vois. C'était tout début de Clever, et il y avait un ou deux trucs.
Et c'était à la demande d'un client qui avait des besoins très spécifiques. Hein. C'est toujours dans ces cas-là qu'on fait les choses les plus discutables.
Les plus discutables.
Encore une fois, voilà. c'est pas se poser la question de est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée, mais est-ce qu'on peut le faire efficacement?
C'est ça, là, et puis surtout combien le client est prêt à payer. En l'occurrence, c'était vraiment une question de ça.
C'était pas là-dessus qu'on avait basé aussi le deployer Dropbox? Où on avait installé un agent Dropbox et du coup on redéployait automatiquement en générant un commit en fonction des changements Dropbox. On parle bien de ce truc-là.
Oui, c'était pour, c'est ça, pour ces gens-là là, qui voulaient payer, je ne sais pas, 2 euros par mois d'hébergement. Donc ils ont eu pour leur argent.
je suis atterré.
Voilà. C'est pas faute d'essayer de les convaincre. Hein.
Mais ils étaient dans d'autres trucs. Quand ils veulent pas écouter. Savoir quoi, Quentin.
Non, mais je sais. Mais entre autres, il y avait cette histoire de déploiement Dropbox où on générait des commits à la volée. Et ça, c'était quand même une grande idée. Allez, on passe à la news suivante sur SecComp. SecComp ? Qui a posé la news SecComp ?
Je suis coupable. SecComp, c'est en gros un système de sandboxing pour contrôler tous les syscalls qui vont être appelés par un process. C'est ce qui est utilisé par exemple sur Exerbo quand on compile un paquet. La compilation en elle-même va être dans une sandbox pour pas qu'elle ait accès au reste du système. Et c'est juste après l'installation finale qui va copier les fichiers sur le système. Bah, cette sandbox-là est basée sur SecComp justement. Ça va monitorer tous les appels réseau et compagnie.
Et la sandbox, justement, effectivement, te trash les appels réseau parce que le but, c'est qu'une compile n'est pas censée aller faire du jardinage un peu partout. Et là est apparu Go. Et là, on est
et, ouais, et du coup, bah, SecComp, c'est un truc très, très utilisé pour faire justement de l'auditing et du sandboxing. Et là, ils ont rajouté dans la 5.9 le fait que SecComp peut détecter quand un process reçoit un truc qu'on appelle e-poll-up. Qu'est-ce que c'est e-poll-up? E-poll, c'est un mécanisme qui permet de dire, bah là, je vais être averti quand cette socket-là, je peux lire dessus, je peux écrire dessus, etc. Et Hippolab, ça va être le signal qu'on va recevoir quand bah, la socket, elle n'est plus là. Elle est à raccrocher à la figure. Et du coup, SecComp va permettre de détecter ça pour pouvoir se dire, ah, là, du coup, vu que mon process que je suis en train de traquer, il vient de se manger un gros coup de raccrochage à la figure, il va peut-être exit ou il va peut-être faire des traitements spécifiques. Voilà.
Et nous avons également des nouveautés dans BetterFS. C'est aussi toi, Marco. BetterFS, c'est toujours toi.
C'est ça. BetterFS, pour petit rappel vite fait, parce que j'ai déjà présenté la dernière fois, BetterFS, c'est un système de fichiers copy and write qui, du coup, évite de dupliquer des choses. C'est un système de stockage très spécifique qui permet de stocker beaucoup dans moins d'espace que ce que ça pourrait prendre sur de l'XT4 ou autre et qui permet de faire des snapshots de façon très, très rapide. De façon instantanée, en fait, même. Du coup, ça, c'est un bonheur pour faire des backups et compagnie. Et alors, nouveauté, du coup, dans la 5.9 pour BetterFS, c'est il y a deux nouveautés. Première nouveauté, c'est un nouvel argument de montage pour simplifier les modes rescue, parce que bah, parfois, il peut y avoir des problèmes. Là, il suffit de rajouter rescue dans les options de montage, et ça va automatiquement ajouter toutes les options qu'il faut pour se retrouver dans un environnement qui permet de sauver ses données quand il y a eu un gros problème.
C'est un mode sans échec, en fait.
C'est un peu ça. Et la deuxième nouveauté, c'est qu'ils ont totalement rework la manière dont ils gèrent, à quel moment il y a besoin de faire des checksums, de quelle manière ils les font, comment ils les stockent, etc. Ce qui leur a permis d'améliorer de ouf les performances quand on fait des écritures concurrentielles, notamment fsync, qui est l'appel qui dit là toutes les écritures que tu as dit à l'utilisateur que tu les avais sauvegardées, mais en fait tu as juste dit au kernel que ça serait bien de les écrire sur le disque à un moment quand il serait dispo. Bah là, ça va être vraiment écrit sur le disque. Donc c'est le petit laps de temps entre le moment où un fichier est sauvegardé et le moment où il est réellement écrit sur le disque. Bah ça, ils ont fait genre du plus 40% de perf sur l'écriture concurrentielle sur le disque, ce qui est du coup un bon gros boost.
Dans les autres news, il y a les ARM. Donc, je vous rappelle que Linux, c'est toujours release sur une tripotée de plateformes matérielles. Donc, vous avez plein d'architectures de CPU. Et après, il y a des fonctionnalités, elles sont dispo ou pas dispo. Et du coup, là, sur ARM, comme d'hab, il y a une palanquée de systèmes on-chip. Donc, ce qu'on appelle système on-chip, c'est quand tu as tout dans une puce pour faire tourner un petit système. Des nouvelles boards, notamment, tu as des nouvelles boards NVIDIA, etc., qui arrivent. Et également, c'est le moment que Amazon a choisi pour committer les versions pour faire fonctionner leur nouveau Alpine V3. C'est celui qui a été lancé sous le nom de Graviton One. Donc la com où ils ont dit que voilà, ils supportaient leurs ARM, donc leurs petits ARM maison. Les gens qui font les ARM maison chez Amazon, c'est Annapurna, en fait. C'était une start-up israélienne qu'ils ont achetée il y a quelques années. Et en fait, là, leur nouveau avec 16 cœurs d'exécution, eh ben, le code de compatibilité est arrivé dans la 5.9 dans le kernel Linux. Donc si vous avez envie d'aller jeter un coup d'œil dessus, c'est le moment, en fait, c'est là que c'est fait.
Du coup, c'est Sker, c'est Niam.
Ouais, c'est assez intéressant. Bon, après, on ne mettra jamais la main dessus. Donc, voilà. Mais par contre, c'est vraiment très intéressant de toujours lire ce qui se passe dans cette partie-là, parce que ça permet de savoir ce que font les fondeurs ARM. Et il y a toujours des trucs assez amusants qui se passent chez les fondeurs ARM. Et là, on voit qu'il y a un gros boulot actuel sur le support de KVM sur ARM qui est déployé dans le kernel, parce que là, il y a plein de commits. Hein.
Dans le genre nouveauté ARM de la 5.9, d'ailleurs, il me semble que ça touche ARM entre autres, mais il y a un scheduler de process qui s'appelle le deadline scheduler, où en gros, c'est, tu dis, bah, ce process, il faut vraiment qu'il soit exécuté avant cette deadline-là, qui est très utilisé pour le real-time Donc, le, vraiment pour l'embarquer où les choses, ils ont besoin d'être faits avant un certain moment, pour genre les pacemakers et tout ça, par exemple.
Et bah, les centrales nucléaires.
C'est ça, par exemple. Et y avait un problème, c'est que ce truc-là, il partait du principe que tous les corps de ton CPU, bah, c'est les mêmes, ce qui est le cas sur les archis basiques, genre x86, etc., mais pas forcément sur toutes les archis RISC, CARM et compagnie. Et du coup, bah, parfois, ça faisait des ratés et c'était un peu gênant. Parce qu'en plus, dans l'embarqué, ce n'est pas du x86 que tu as en général. Et maintenant, ils ont adapté le deadline scheduler pour justement avoir conscience des différences entre les différents corps et appliquer la bonne deadline justement sur les bons corps.
C'était pas ce cas-là où il s'était retrouvé tout d'un coup à exécuter du arm thumb ou un truc comme ça? Arm thumb, c'est ce arm en 16 bits qui existe encore dans un endroit parce qu'on voulait faire des exécutions très très petites pour les mobiles. Et je crois que chaque fois que quelqu'un a décidé d'en faire, c'était une très 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 mauvaise idée, quoi.
Ouais, mais ça, c'est dès que tu mets des petits CPU à la con avec des cores très différents.
Donc ça devait être du 32-64 bits peut-être, plus ça en fait, parce que le arm thumb, enfin.
Mais tu sais que globalement, en général, ce qui se passe, c'est que le fondeur te fournit une build de Cousteau avec un if dégueu dans un couac qui a été collé à l'arrache. Tu vois, genre. Et après, il te dit non, mais il ne faut pas utiliser les autres, tu utilises le mien. Et tu dis, mais moi, je voudrais le code en fait, du truc. Il dit, non, ce n'est pas possible, il y a des notions d'IP. Et t'es là, genre, en fait, c'est dégueulasse et tu n'as pas envie de maintenir dans le temps parce que ce que tu as fait, c'est tellement pété que tu ne veux pas en entendre parler. Quoi, c'est ça. Mmh.
Les fondeurs, quelque part, c'est un peu des devs embarqués. Hein. C'est la même culture.
Bah, c'est des devs embarqués, mec. C'est des électroniciens qui tapent du code. Hein. Moi, là, je viens d'un projet où il y avait des électroniciens qui tapent du code. C'est une autre culture. On ne parlera pas des features virtualisation ce coup-ci, parce que c'est la release note sur la virtualisation est d'une tristesse. Genre, il y a une ligne d'un truc dont on n'a rien à taper. Enfin, c'est très rare, mais là, il ne s'est vraiment rien passé. Quoi. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc évidemment, il y a plein d'autres trucs qui existent dans les mises à jour. Comme d'habitude, c'est plutôt Kernel Newbies qu'il faut aller lire.
Ouais. Si tu veux, pour avoir un mini point virtu quand même, parce qu'on est censé faire de la virtu dans notre métier à la base. Il y a dans le domaine de la virtu, c'est pas dans le kernel en lui-même, mais c'est étroitement lié. Cloud Hyperviseur, qui est l'hyperviseur écrit en Rust par les gens de Intel et qu'il est bien. Et ben, ils ont sorti là très récemment, genre il y a une semaine à peine, le support des guest Windows.
Nice. Ah nice, j'avais pas vu ça. Ah c'est génial, parce que du coup nous on est en train de tout rebaser sur Cloud Hyperviseur chez nous. Et Rust VMM et tout ça, c'est les mêmes projets. Et donc, du coup, tant qu'on y est, on peut vous en parler. Geoffroy, ici présent, vient de sortir une démo donc, de notre FAS. Donc, si vous n'en avez jamais entendu parler, chez Clever, on est en train de faire un Function as a Service qui vous permet d'exécuter du WebAssembly. Et en fait, Function as a Service crée une machine virtuelle par exécution de fonction. Et ça, c'est rendu possible parce qu'en fait, c'est un tout petit mignon unikernel. On appelle ça, nous, le kernel-less function as a service qui exécute du function as a service. Et on a des méthodes très particulières qui nous permettent de démarrer à chaque exécution de fonction un truc en quelques microsecondes. Hein. Je n'ai pas dit millisecondes, mais microsecondes. Et quand on boot, faire chauffer la bécane pour que ça ait le temps, c'est 1 à 2 millisecondes. C'est bien ça, Jérôme ?
C'est en gros, créer la VM. Juste le syscall de création de VM et de vCPU, c'est ça qui prend une milliseconde et ça se batch. Mais le reste, charger le code, préparer le CPU à l'exécution, etc., c'est quelques microsecondes. Enfin, c'est d'une rapidité. La VM peut démarrer avec au minimum 65 kilos de RAM. Genre, c'est large, hein, on a la place. Et ouais, la démo, c'est une application de chat. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que le browser communique par WebSocket, et chaque participant au chat a sa VM attitrée qui gère sa connexion WebSocket. Et après, ça communique par des topics Pulsar, qui gère des queues, c'est une espèce de Kafka multi-tenant qu'on déploie chez Clever. Et il y a une autre app Fast qui reçoit les messages Pulsar et les redispatch vers chacune des apps WebSocket. Donc tout ça, bah, ça se démarre à la volée, ça se reconfigure en runtime. Enfin, c'est assez cool à utiliser.
En fait, quand t'arrives sur la page, tu ouvres ton WebSocket, ça génère ta mini-VM dans laquelle tu parles, mais tu le vois pas, enfin, ça vient en quelques microsecondes, encore une fois. Et tant qu'en fait le WebSocket est là, cette VM-là existera. Au moment où tu perds le WebSocket, bah, la VM cesse d'exister. Et là, la démo est vraiment cool. Enfin, vraiment très très cool. Donc, on va vous mettre le lien de la démo enfin, le lien est un peu cryptique, on va dire, mais c'est cool.
On va changer, on va mettre un vrai domaine. Moi, j'aime bien les domaines UID, c'est très très visible.
En fait, le domaine, c'est une espèce de UID dégueulasse, point par zéro, tiret face, tiret N0, point. Tu sens le truc où on est en train de faire le baking, tu vois, tranquillement chez nous, tu vois. Mais bon, il y aura bientôt un sosou devant ça, hein.
Il y a un sosou devant ça, en fait.
Ah, d'accord. Ouais. Bah, du coup, on va mettre un vrai nom de domaine. Point suivant, peut-être. Amazon avait sorti un truc qui s'appelle Bottle Rocket. Et bah, enfin, peut-être, Géal, c'est toi qui était tombé sur cette news. Amazon Bottle Rocket, c'était quoi?
C'est une distrib pour faire des conteneurs, c'est ça? Je me souviens plus trop en fait. C'est sûr que c'est moi qui avais posté ce truc-là.
Marco, c'est pas toi qui avais regardé sérieusement ce sujet-là?
Alors, moi, c'est pas moi qui postais le truc, mais quand je l'ai vu passer en lisant la baseline, ça avait l'air rigolo. Parce que le concept, c'est ouais, on a tout fait en Rust et tout ça, genre. Tout de zéro, le package manager, les paquets, tout est écrit en Rust. Je me suis dit, bon, tiens, je vais aller voir un peu comment ils ont architecturé ça, de quelle manière ils ont fait ça et tout. Moi, en tant que. Je fais partie de la core team d'Exarbo aussi, du coup, en tant que packager, la partie packaging m'intéressait pas mal. Je suis allé voir à quoi ressemblaient leurs paquets. Alors, pour chaque paquet, c'est effectivement une crate, donc un paquet Rust. Avec un cargo.toml qui est là où on liste les dépenses normalement et tout. Sauf que là, il n'y a pas de dépenses de listée, il y a juste un build script qui est listé. Le build script qui est écrit en Rust aussi, c'est nécessairement. Qu'est-ce qui fait le build script? Il fait un exec de RPM en gros. Voilà, donc on est content, on lance un cargo build comme si on buildait un projet Rust. Et derrière, qu'est-ce que ça fait? Ça cache juste un appel à RPM. Du coup, j'étais tellement déçu que je ne suis pas allé voir plus loin.
Ouais, ça a l'air d'être un peu la mode en ce moment, les gens qui lancent des services cloud et on fait du Rust, et puis en fait ça s'appelle juste un curl ou autre derrière. C'est toujours rigolo à voir.
Je suis allé dans le code source il n'y a pas longtemps de gens qui étaient tout contents de dire Ah, nous on fait tout en Rust pour que ce soit bien propre, bien carré, on est des gens sérieux. Par contre, on n'a rien trouvé de mieux pour faire les appels d'API. Bah, les mecs, en fait, ils font du système exec de curl. Et ils parsent le retour de curl en CLI et ils sont là, genre, ouais, la safety avec Rust, et là, oh mon Dieu.
Oui, mais vu qu'il y a bientôt du Rust dans Curl, ça compte, non?
non, mais c'est
Bref.
compliqué.
Mais sinon, le Rust dans le cloud, ça se fait, c'est très bien et on en fait depuis longtemps et mangez-en, hein.
Normalement, tout être censé est censé comprendre que, genre, system.exec, quand on est. Ou l'équivalent dans chaque langage, quand on est rendu à faire ça, c'est rarement un bon signe. C'est toujours. Normalement, il y a une façon meilleure de faire ça. Et me dites pas, ouais, mais c'est parce que j'ai besoin de parler au système. Normalement, il y a un truc qui s'appelle la glibc ou quelque chose maintenant qui te permet de parler avec des syscalls à ton kernel. Enfin, c'est comme ça que c'est censé faire.
En fait, ça fait des années que des gens travaillent sur des crates pour causer au système, pour aller voir les trucs dans slash proc, là, pour faire des requêtes réseau, pour aller même causer à des trucs type Docker.
Tu veux dire qu'il y a un client HTTP en Rust? Ça
Il y
existe?
en a plein, 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 et ils sont tous désagréables à utiliser. Non, bref. Mais en fait, l'outillage système en Rust, il y en a une palanquée. Il y a quasiment tout est fait, en fait. C'est pas forcément connu. Mais on peut faire de l'outil système bas niveau très facilement.
Voilà, bref. Comme d'hab, les gens font de la hype, ils font. Enfin, méfiez-vous des arnaques. Quand tu transformes n'importe quel build system en makefile, c'est pas pour ça que tu es propre pour autant. Hein. Un makefile, c'est un makefile. Hein. À la fin, c'est du bash, quoi. Rapidement, on va essayer de faire rapide sur les autres news parce que je pense qu'on va aller sur un épisode comme d'hab un peu long. Il y a un nouveau Raspail. Enfin, c'est pas vraiment un nouveau Raspail. C'est un clavier Raspail. Qui nous en parle?
Ouais, je veux bien en parler. Je trouve ça vraiment super mignon. Vas-y. Mais vas-y, Jutu.
Non. Ils annoncent qu'il est 40 fois plus puissant que le tout premier Raspail.
Le premier Raspail, c'était il y a plus de 10 ans. Quoi. Enfin,
c'est ça, exactement. Donc, si on suit
il fallait pas le pousser trop fort, le premier Raspail aussi.
Je sais plus quoi. Ouais, c'est clair. Mais voilà. Et en fait, non, la grande nouveauté de celui-là, c'est qu'en fait, c'est un clavier. C'est un Raspail qui a la taille d'un clavier parce que en fait, il y a des touches au-dessus. Et tu as juste ensuite à le brancher à ta souris, à ton écran. Et tu as ton nouveau Raspail. Et c'est très joli parce que c'est aux couleurs. Raspberry, donc c'est framboise, hein, c'est ça? Ouais. C'est couleur framboise. Si vous cherchez un cadeau de Noël mignon, c'est pas mal.
Non, c'est sympatoche. Les touches font un peu clavier externe Apple, donc sympa à utiliser. Enfin, plus, clavier externe d'avant l'époque où ils avaient les touches qui partent, etc. Je suis un peu mad parce qu'ils auraient pu partir sur le format Commodore 64, quitte à avoir un clavier avec tout dedans. Mais. C'est vrai.
Moi, j'ai vu des gens qui l'utilisaient en bi-écran et tout. Franchement, je pense que pour dépiler tes mails tranquillou, c'est pas si mal. Hein.
Là, c'est cool. Hein.
Je suis pas sûr que le machin réussisse à réellement charger Gmail tellement le vidéo est devenu le gros, mais on verra. Non, c'est que dalle, c'est pas cher. Non, en vrai, je trouve que c'est une vraie bonne idée. Tu vois. Et je pense que, ouais, pour dépiler tes mails et faire deux, trois trucs, c'est pratique. Moi, je pense que je vais peut-être en acheter un ou deux pour Clever, qu'on ait ça au bureau, tu sais, qu'on puisse. Au bureau, nous n'allons plus, tu vois. Mais... Enfin, sauf moi aujourd'hui, mais c'est parce que je devais voir des trucs avec la compta.
Ça manque juste d'un mapping Beppo, mais bon.
Voilà. Est-ce qu'ils ont foutu en open source les STL du truc et genre on peut l'imprimer en 3D et tout ça?
Je sais pas. Mais déjà, ils annoncent qu'ils ont les maps, enfin, en termes de mapping de touches, hein, je parle pas logiciel, de UK, US, français, italien. Allemand et Spanish, espagnol. C'est ça. Ma qualité de traduction anglais vers le français était à son plus haut niveau.
Toujours dans les news, Node.js 15 est arrivé. Node.js 15, qu'est-ce que c'est en vrai en release? C'est assez light. Hein. Globalement, il y a un truc qu'ils appellent le Abort Controller, qui est une sorte de truc qui est basé sur le Abort Controller Web API, qui est fait pour gérer l'abortion de futur, en fait, à l'intérieur du système, si ma mémoire est bonne. Je dis n'importe quoi, ou c'est bon?
Non, c'est ça. On peut se hook sur l'event abort d'une promise, si je dis pas de bêtises. Ouais. Voilà, c'est encore un peu expérimental, hein, a priori.
Le point qui va avec quand même, c'est que du coup, avec la release de Node 15, c'est Node 14 qui a été promu LTS. Du coup, ouais. Au passage, toutes les applications Clever là ont été redéployées avec du Node 14 par défaut, si vous n'avez pas configuré pour autre chose. Et au passage, le petit kernel 5.9.3 qui est le dernier en date, a priori, en tout cas, c'était le cas hier.
Sinon, il y a NPM 7, mais on en a déjà parlé dans le podcast.
Ah bon?
Oui, ouais. Le dernier, oui. Ouais. Enfin, en tout cas, j'étais là. Donc, ouais.
J'ai lancé des LTS comme ça, parce qu'on voit Marco qui amène tout le monde dans le futur, une LTS à la fois.
Ouais, mais c'est la philosophie Clever. Vous ne resterez pas sur du vieux soft pété. Moi, ça m'angoisse, les gens qui aiment rester sur du vieux soft pété, qu'on ne saura pas repousser.
C'est pour ça qu'on a inventé Docker.
Sur du nouveau soft pété.
du bon gros soft à la Docker où tu sais, genre, tu peux garder tes binaires 15 ans et emmerder personne avec. Tu vois. Ils ont toutes les failles comme ça. T'es sûr qu'elles ont toutes. Tu vois. Non, mais ceci dit, Clever Cloud supporte très bien Docker. Nous étions le premier cloud public à le supporter. Et nous allons ajouter bientôt de nouvelles fonctionnalités dans le container as a service. Et on est ravis de vous accueillir dessus. Mais si vous n'en avez pas réellement besoin, en vrai, c'est juste tellement plus pénible à utiliser qu'autre chose que je ne comprends pas très bien. Non, dans le Node.js 15, par contre, des choses intéressantes. Bon, il y a une mise à jour de V8. Et ça, j'avoue que ce n'est pas nécessairement très pertinent. Enfin, il y a eu des choses de changer dans les promises. Il y a quand même, dans les strings maintenant, il y a enfin le replace all. Et ça, j'avoue que c'est pratique. Tu vois, genre, voilà. Non, un truc qui est marrant, c'est qu'il y a une version expérimentale de Quick qui est arrivée dans Node.js 15. Et ça, c'est marrant. Quick, c'est marrant.
Mais du coup, dans Node.js 16, est-ce qu'ils vont remplacer l'implème de Quick par une implème de Burger King ou...
Elle était bonne.
Déconnectez-le.
Non, alors peut-être pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Quick, Quick c'est une sorte de capacité à vivre du TCP au-dessus du DP en beaucoup plus rapide. On peut le dire comme ça, c'est le spec de feature de TCP dans un modèle du DP en beaucoup plus rapide avec une négociation moins longue et qui te permet de multiplexer la connexion beaucoup plus fortement. On est d'accord avec ça ou je dis n'importe quoi?
Ouais.
Bon, non, c'est une solution qui a été trouvée pour pouvoir faire du HTTP, mais pas au-dessus de TCP.
Ça, c'est les fondements de HTTP 3, si je ne dis pas de bêtises.
Exactement.
Tout à fait. Tout à fait. Quick, en fait, si tu veux, globalement, tu prends HTTP 2, tu te débarrasses de TCP et tu peux le coller comme ça, peinard. Et c'est Google qui a toujours pensé Quick. Et c'est mieux pensé pour le mobile aussi.
Ouais. Et tu as le TLS 1.3 aussi qui fait partie du protocole, en fait. Parce que l'idée, c'est pour gagner du temps, plutôt que de faire du TCP, alors faire ta négociation TLS sur du TCP, puis ensuite envoyer tes paquets HTTP. L'idée, c'est que avec Quick et HTTP 3, tu fais tout en même temps. Tu négocies tout en envoyant ton premier paquet, et comme ça, le handshake se fait avec déjà quasiment les headers qui passent et parfois le choix de version de HTTP et tous ces trucs-là.
Pour ceux qui ont vu la conf que je donnais à la grande époque sur HTTP 2, où je vous expliquais les négociations de protocoles. Donc, pour ceux qui ne savent pas, en fait, quand tu parles avec un serveur en général, dans tous les protocoles un peu modernes, un peu évolués, ou juste les protocoles qui se sont pris plusieurs fois les pieds dans le tapis, tu as ce qu'on appelle la phase de négociation de protocole, où tu, en tant que client, tu débarques en disant « moi, je sais parler toutes ces versions-là du protocole », et en général, en crypto, tu dis « avec tels algo de chiffrement, etc. » Et le serveur de l'autre côté regarde ce qu'il sait faire et dit « bah, du coup… » La meilleure option, c'est qu'on utilise tel protocole. Et globalement, il répond au client, OK, bah, dans ce que tu sais faire, on a choisi de faire ça. Et si ton client est trop vieux, tu finis avec la fameuse nous n'avons rencontré aucune similarité, je ne parle aucune de tes versions pourries, jeune ami. Ce qui peut arriver quand tu essayes, notamment les gens qui essayent de péter des vieilles versions avec des vieux algos de chiffrement, où du coup, on leur répond non, toujours pas, on ne parle plus tes vieux algos de chiffrement pourris. Espèce de scammer qui essaye de passer pour venir me faire du buffer overflow. Et en fait, du coup, l'idée de base de Quick et de tout ce qui se passe en HTTP depuis des années, est d'essayer de faire une seule phase de négo de protocole, où en fait, on va essayer d'en faire qu'une seule et de la ramener au plus bas, parce que sinon, en fait, chaque couche successive du modèle OSI débarquait en disant « Eh ben moi, je vais négocier mes protocoles. » Et en fait, du coup, tu avais 8 phases de négociation avant de commencer à parler. Là, l'idée, c'est que tu arrives une fois, tu balances toute ta table de négo, le serveur te répond et on est parti. Et du coup, c'est con, mais ça fait gagner plein de perfs de façon relativement gratuite d'un point de vue développeur web. C'est-à-dire que d'un point de vue WordPress, tu ne le vois pas. Quoi. Tu vois, mais ça a un vrai impact. Je pense que j'ai tout dit là sur notre 15. On est bon?
Il me semble, oui.
Je vous propose qu'on ouvre la séquence troll. La séquence troll est... Avez-vous remarqué qu'il y a des nouveaux logos pour la suite Google App?
Cette année, de façon subtile, s'il en est.
Non, mais on sent qu'on revient vers 2013-14. On revient au flat, là.
Ouais. Mmh.
Flat,
c'est couleur, pas heureux.
Non.
Alors, perso, depuis qu'il y a un nouveau logo Google, ça m'a fait tellement mal aux yeux que j'arrive plus à rien.
J'avoue. Mais moi, ce qui m'énerve un peu avec ça, c'est que autant que les gens changent de logo une fois tous les 10 ans, pourquoi pas? Mais deux fois par an, c'est fatigant, quoi.
Surtout quand c'est le service que tu utilises le plus dans le monde. Quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais, et que d'un coup, tes onglets, ils n'ont plus la même tête. Et que tu n'arrives plus à voir si c'est une notif ou en fait, non, c'est juste la favicon qui a changé de tête. Quoi.
Surtout quand tu as quatre couleurs communes à tous tes logos et que tu n'es pas foutu d'utiliser le putain de même code exa sur tous tes logos. C'est un jaune différent sur chaque logo, c'est un bleu différent sur chaque logo, un rouge différent. Pourquoi ?
En fait, c'est qu'il s'est changé le fichier color chart underscore final final point review 2 et quelqu'un qui est tombé sur la version 3 du truc et puis enfin ouais, ça s'est perdu après quoi.
Ouais, ça c'est quand même hyper mal mis quoi. Bref, je pense que le web est assez universel sur le sujet et j'aimerais pas être le mec du design qui a dit genre vas-y, on va changer les logos parce que globalement, il se fait conspuer depuis 15 jours. Ouais. Dans les dernières news, les trucs marrants, restez très ouverts à notre blog. On va annoncer des belles choses en termes de déploiement Clever un peu partout dans le monde. Donc restez bien tuned sur le blog. Et il y a également un de nos vieux clients, j'allais dire anciens, pas parce que lui est vieux, mais parce que ça fait longtemps qu'il nous utilise, Sébastien Prunier, qui a fait une conf de retour, enfin une conf virtualisé, n'est-ce pas, de retour d'expérience sur Clever qui nous a fait très plaisir parce qu'il explique exactement la raison pour laquelle on a créé Clever. Et du coup, regardez-la et montrez-la à vos boss, montrez-la à vos amis parce que ça va vous expliquer pourquoi Clever, en fait, en tant que développeur, ça te permet d'aller vite, bien, loin et sans GAFA. Ah, j'ai mis le silence après ça, quoi. Bref, merci Seb. On ne savait pas du tout qu'il allait la donner cette conf.
Le silence après du Quentin Adam est toujours du Quentin Adam.
Bref, elle est très bien cette conf. Moi, je l'ai trouvée très cool. On se fait la séquence musique. Moi, dans l'ordre, j'ai Judy Géal, Kérusp et moi-même. J'ai un des 20. Je lance et je fais 8. 8, c'est Géal.
Ah, oh. Parfait. On a du gros, gros, gros son cette semaine.
Je crois qu'on espérait tous que ça tombe sur lui, pour être très honnête.
Donc, par une malheureuse suggestion sur IRC, je suis tombé il y a quelques temps sur une bande de mariachi qui fait des reprises de différentes musiques. Et donc là, c'est un set de musique du vidéo Zelda, reprise mariachi, donc c'est-à-dire la guitare à la mexicaine, la flûte, le trombone, tout ce qu'on veut. Et en fait, ça se cale plutôt bien parce que ça a un côté très épique, la trompette et tout comme ça là-dedans. Je trouvais ça vraiment super sympa. Et sur toute une série de musiques diverses et variées, il commence toujours par le petit shot, je pense, de tequila au début. Hein. Et puis après, c'est parti. Bon, là, ils sont en mode confinement, chacun devant leur laptop chez eux. Lui se font plaisir.
Ah, franchement, le mix est excellent. Quoi. Je suis tellement heureux. Donc voilà, c'était Zelda X le Mexique en ce jour d'élection américaine indécise où peut-être que Trump pourra continuer son mur ou non. En tout cas, à Hyrule, on a maintenant des mariages. C'est beau. Bien, je pense qu'il est temps qu'on clôt un peu le sujet.
Tu te rends compte que l'élection, elle sera déjà finie quand on aura publié, là.
En vrai, ça va publier vite. Hein. Même si là, on a eu un problème avec notre soft habituel d'enregistrement qui, pourtant, avait bien amélioré le son. En vrai, ça va publier vite. Bref, du coup, peut-être tous, où est-ce qu'on peut vous retrouver, Géal ?
Sur Twitter, le pseudo J'ai compris. Ou sur GitHub, Géal.
Julien.
Eh bien, vous pouvez me retrouver sur Twitter, J-U-U-D-U-U, comme je dis, mais avec deux fois deux U. Voilà, vous pouvez rejoindre mon fan club d'humour de qualité qui comprend actuellement à peu près deux membres et demi.
L'humour de qualité de Julien, ce qui est nickel. Et nous avons également Marc-Antoine Perredou.
Principalement dans mon salon en ce moment. Sinon sur
GitHub.
C'est ça. À cause des logos Google. Donc ouais, sinon principalement sur GitHub, un peu sur Twitter ces temps-ci pour shitpost comme il faut. Kérusp, Kérusp.
Et en ce qui me concerne, vous pourrez me retrouver donc sur absolument tous les réseaux sociaux sous le pseudo WAXZCE, hormis sur Pokémon Go où je me suis fait niquer mon pseudo et c'était la première fois que ça m'arrivait, je l'ai très très mal vécu. Merci à tous de nous avoir écoutés jusque-là. N'hésitez pas à faire des commentaires, me dire si cette plongée dans le kernel 5.9 vous a été utile. Et à très bientôt. Au revoir.
Au revoir.